Bulle Mécanique sur Radio Primitive, votre rendez-vous culturel 100% rémois.
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission La Bulle Mécanique, toujours en compagnie de Couscous Mélanie.
Bon, couscous Mélanie.
Couscous, c'est un nouveau plat,
ouais,
ça.
Ouais, couscous okay. Et Mélanie, pardon.
Bonsoir.
Ok.
Et aujourd'hui, on est différemment de d'habitude. On n'est pas avec un artiste local, puisqu'il nous vient de Montreuil. C'est pas si loin que ça, mais bon. Et donc, du coup, Johnny Montreuil. Ravi de te recevoir dans la bulle mécanique.
Eh ben, merci.
Sur Radio Primitive, c'est cool.
Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour la proposition.
Eh ben, merci pour avoir accepté.
Un grand plaisir d'être là.
Ah bah pareil, et... parce que pour la petite anecdote, tu veux peut-être...
Non, vas-y, Couscous, je t'en prie.
Ah bah, j'ai pas bien appris mon texte, mais on t'avait découvert, enfin, on vous avait découvert, parce que Johnny Montreuil, c'est le nom du groupe.
Non, mais tu peux me vous voyez.
Ouais, ouais.
Non, c'est pas le nom du groupe, non, c'est mon nom. C'est mon nom de scène, et j'ai monté un groupe, par
d'accord,
contre,
d'accord, ok, bah comme ça, voilà, première question répondue du feu de Dieu. Ouais, on t'avait découvert dans une petite MJC à Mantes-la-Jolie, il me semble.
Il y a une dizaine d'années, ouais.
C'était facile. Au 4 Georges Brassens.
Ah, tu
c'est ça, c'est ça.
Bah, rien qu'une MJC à Mantes-la-Jolie.
Voilà,
ah, okay,
voilà.
Je croyais que tu te
mais moi, le nom me dit quelque chose.
J'ai joué plusieurs fois.
Et tu m'avais vendu le CD, d'ailleurs, que j'ai bien poncé toute la nuit parce que le lendemain, je connaissais toutes les paroles par cœur de l'album.
Tu les connais toujours par cœur, d'ailleurs.
Enfin, voilà pour la petite anecdote. Gros coup de cœur. Et
donc, voilà.
On est ravis de te recevoir.
Ouais, carrément ravi. Et du coup, Johnny Montreuil, est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est, comment le personnage s'est construit? Je sais pas si c'est un personnage ou si c'est...
Ouais. Nous aussi, c'est un nom d'Apache, un nom de scène, un nom... Mais c'est vrai que quand il s'est créé, c'était pas que un nom pour la scène, c'était aussi un nom qui m'a fait du bien à un moment de ma vie. Tout simplement, ça part d'une passion, une grande passion pour Johnny Cash, donc pas pour Johnny Hallyday.
Ah, j'adore.
Et avec le plaisir d'adapter des chansons de Johnny Cash en Montreuilois, où j'ai atterri. Et un peu, Montreuil, ça correspondait un peu à l'idéal. Un idéal de banlieue parisienne dans lequel j'ai grandi, mais avec moi j'ai grandi dans une cité dortoir plus toi où
okay.
Un peu ennuyant quand tu commences à avoir 15 ans, il se passe pas grand chose le soir au business, enfin pas culturellement parlant, il y a pas grand chose, tu peux avoir des énergies qui étaient pas forcément les miennes et j'avais besoin de trouver d'autres choses ailleurs et à Montreuil, j'ai trouvé et le rock'n'roll et tous les gens avec qui j'ai grandi dans mon quartier et plein d'artistes aussi qui venaient se mélanger à tout ça. Une ville dans le 93 avec une énergie incroyable, plein de squats qui avaient été d'anciennes usines qui avaient été récupérées, donc une super énergie artistique dans un terreau de banlieue que j'adore et avec une population aussi mixte qu'avec laquelle j'avais grandi, qui me manquait cruellement quand j'avais bougé entre ma cité et Montreuil en province ou même à l'étranger. Il me manquait ce... Il manquait cette tour de Babel.
D'ailleurs, tu le traduis bien, excuse-moi de te couper, dans certaines chansons du premier album.
Non, la parole, tu vas pas le faire 10 mois, moi. Sinon, moi, je vais m'amuser aussi. Vas-y,
Couscous, il va moins faire le malin ce soir.
Carrément, tu as raison.
Excuse-moi de te couper la parole, non mais dis donc, alors.
C'est bien une des rares fois où je vais fermer ma gueule.
Oh là
bon, là, je suis toujours en train de...
Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais dire?
Je sais plus.
Tu vois
qu'on retrouve ce terreau-là qui te manquait apparemment dans certaines chansons du premier album, Je suis le vent.
Alors Je suis le vent, c'est un morceau qui parle surtout d'évasion et surtout de quitter le quartier. Donc c'est vrai qu'on retrouve pas forcément les personnes dont j'ai parlé là dans le Johnny Montreuil. Mais pour finir, je disais donc que Johnny Montreuil, ça venait de ce truc-là en fait. Et que ce nom-là, il correspond à pour moi à un idéal et de kiff de musique de musique américaine de Johnny Cash qui était un rock'n'roller mais punk avant l'heure et des histoires et très poétiques aussi, ouais. Puis des histoires toutes simples où souvent il finit en taule, souvent il parle de ça, donc ça me touchait à l'époque aussi et Montreuil pour ma banlieue quoi et pour ce que je trouve de beau en banlieue qui existe encore dans quelques endroits où le vivre ensemble,
la mixité, ouais.
Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose encore. Et à Montreuil, c'est le cas.
Et
donc voilà.
Oui, parce que là, tu vis toujours à Montreuil.
Ouais.
C'est ça. Et tu trouves toujours que c'est le cas. Il n'y a pas eu de différence. Hein. Ça change pas.
Ah bah, ça évolue, forcément.
Le vivre ensemble, je veux dire.
Oui. C'est-à-dire que là, je sais que la mairie, sans leur cirer les pompes ni quoi que ce soit, ils font très attention à ça. Je me mêle pas de la politique ni quoi que ce soit.
Non,
mais en tout cas, je sais qu'au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, au niveau de toutes ces choses-là concernant la jeunesse et les enfants. Il y a une vraie politique et il y a un vrai discours. Là, on parle de mecs progressistes, de mecs de mon âge,
ouais.
Qui ont 45 piges, tu vois, qui sont maires d'une grande ville de plus de 100 000 habitants, qui sont très impliqués au niveau de la culture, qui ont un parcours politique. De toute façon, qui a un parcours politique, donc je vais pas, tu vois. Mmh. Mais les cités, elles sont pas enclavées, quoi.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais.
Ça c'est quelque chose d'important. Et pourtant, tu vas au Morillon, il y a certains coins de Montreuil où tu vis, c'est pas le soir, t'es pas à la place de la mairie à boire ton petit verre en terrasse.
T'es champagne.
T'es au Morillon à te prendre des feux d'artifice dans le cul quand tu rentres chez toi. Quoi.
Ouais. Okay.
Donc c'est pas pareil non plus. Mais voilà. Mais c'est pas enclavé non plus. Puis il y a une grande histoire horticole à Montreuil. Il y a plein de verdure, plein de jardins, plein de parcs. C'est une ville assez incroyable quand même, vraiment.
Ok, et du coup, t'as jamais eu envie de partir de Montreuil depuis que tu y es atterri?
Pour y vivre, non, je trouvais que c'était bien. Puis c'est près de Paris, puis en essayant de développer une activité musicale en partant de pas grand-chose, t'as Paris à côté, donc il y a quand même pas mal de salles de concert, il y a quand même une grosse activité artistique et culturelle à Paris, des maisons de disques, des bureaux, des gens que tu peux rencontrer, il y a quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément d'intérêt au départ d'aller vivre ailleurs. Puis Paris, c'est un terrain de jeu incroyable quand même. La nuit, ça reste quand même...
C'est vivant.
Parce que Paris, ils appellent ça la ville lumière, mais tout est éteint à minuit, c'est ça? Pour faire référence à une de tes chansons.
Oui, bah, y a plein de gens qui l'ont dit avant. Et tu vois, à l'époque, la Manon Negra, ils avaient repris ce morceau-là, mais c'était un vieux morceau de qui était Pierre Carré, chantait là, dans le quartier de Pigalle. Paris, la nuit, c'est fini.
Ouais,
ça fait... Je pense qu'à chaque génération, les gens ils se disent que c'était mieux avant, partout, il n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs.
Oui, ce reste, ça ne changera pas. Ça. Et pour en revenir un peu à toi, à la musique, justement, je crois que tu as sorti ton premier EP en 2012.
Oui.
Si je ne dis pas de bêtises, vous étiez deux.
Oui.
À l'époque.
Oui.
Ouais. Et comment c'est passé? Enfin, je veux dire...
C'est une partie de rien du tout.
Ouais.
J'ai commencé le projet avec une personne, Olivier Moulin, qui arrivait sur mon ancien groupe.
Okay.
Et qui voulait reprendre un peu le tour, s'en occuper, manager, tourneur, un peu, voilà. Ça se terminait, donc je lui ai parlé de cette idée de Johnny Montreuil, et il m'a dit oui, c'est très bien, mais on n'a rien du tout là. On a rien, il n'y a pas d'album, il n'y a pas de presse, il y a feuille blanche complètement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence de zéro et on va voir ce qui se passe.
Puis on tape dedans. Ouais.
Voilà, et pas que non plus. Alors moi j'étais comme tu dis là, à taper dedans, à aller à jouer n'importe où que c'est possible. Puis il y avait l'envie en fait. C'était pas un plan marketing quoi.
Tu vois, on revient à Johnny, l'envie d'avoir envie.
C'est pas le même Johnny.
Non. Ouais, l'envie d'avoir envie, mais il y avait l'envie, il y avait
la
juste...
passion.
Non, mais j'avais juste envie. J'avais pas l'envie d'avoir envie. J'avais envie tout court en fait et besoin d'aller jouer. C'était viscéral tous les soirs. Et j'ai rencontré Emilio à ce moment-là. Et un violoniste incroyable, je suis du Zigane de malade mental, mais le mec qui avait le mort, quoi. Il était pas là pour rigoler, il était chaud patate tout le temps.
C'est lui qui est sur scène avec vous au Francofolie.
Exactement, donc ça c'est ce qu'on a fait, j'allais y venir. C'est-à-dire que nous on s'est rencontrés comme ça à ce moment-là, et je me suis dit putain, il y a une putain de Johnny Cash avec un Zigane, Johnny Montreuil, enfin tu vois, un violon,
allez,
c'est pas attendu.
Contrebasse là-dessus.
Il y a pas le cliché.
Mais c'est justement quand on bouscule les gens que ça devient intéressant.
C'est ça.
Moi, c'est, en tout cas, c'est ça qui me plaisait dans l'histoire. Et effectivement, comme tu disais, Couscous, on s'est retrouvé ensuite par ce Olivier qui m'a dit, bah attends, il y a un truc là, il y a Francofolie, c'est la partie sociale des Francofolies, je sais pas quoi. Il y a un tremplin, un concours,
gros,
je sais pas quoi. Mais en fait, au départ, tu postules, t'envoies une maquette. Il y avait 6 villes qui étaient représentées. Donc Montreuil, Avignon, Nantes, je ne sais plus. Il y avait 6 villes comme ça de France qui étaient représentées, qui devaient être représentées sur la scène. Donc c'était la partie un peu sociale des Francofolies, quand ils venaient de leur acheter, etc. par Morgan Production, tout machin. Et on se retrouve, donc moi je me retrouve à envoyer une maquette où je fais un contrebasse voix dans un studio et ils me disent écoute, t'es sélectionné, donc il y a un tremplin à Montreuil qui est organisé, donc on était je sais pas 10 groupes, un truc comme ça.
Mais faut que t'étoffes le truc, non c'est pas...
Bah non, ils me disent c'est qui tes musiciens? Donc je fais alors c'est lui. Et donc Emilio, forcément le violon que je venais de rencontrer, avec qui on avait commencé à développer une vraie... Ouais, exactement, une osmose, une fraternité, un truc très très fort. Et mon pote batteur avec qui je jouais avant, qui est venu, qui était là pour... Enfin, que j'ai appelé, je lui ai dit c'est cool, vas-y, on est pris dans le truc. Là, c'est un vrai braquage. On est rentré dans la banque. Donc là, maintenant, c'est rentre dans le coffre et on joue sur la scène Saint-Jean-d'Acre au Francofolie.
Vous avez fait qu'un titre?
Et non. On a fait trois titres. Il fallait faire trois titres.
Okay.
Donc j'avais pas encore un album, j'avais pas encore un répertoire ni rien. Ouais. Il y avait l'envie et il y avait ce morceau-là de Johnny Montreuil adapté de Cocaine Blues de Johnny Cash. Il y avait,
D'accord.
Que j'avais commencé à faire. Il y avait Wesh Lurler qui était Hey Porter. Il y avait Marche Droit pour Walk the Line. Je commençais à écrire ces morceaux-là avec Emilio au violon. Et pour en revenir à ça, en même temps, lui, il montait Almadili. Donc, il montait son groupe musique des Balkans, Balkan Power, Zigan, okay. Violon, guitare, la pompe et moi, la contrebasse. Mais sauf que je ne jouais pas de contrebasse encore. Donc,
ah ouais.
Donc, je les ai branchés là-dessus au début. C'était l'année d'avant. Je fais la contrebasse avec vous et tout. Et ouais, mais tu ne joues pas de contrebasse. Donc, je m'étais mis un peu en secret avant dans mon ancien groupe aussi. Et donc, j'ai eu une opportunité pour bosser à fond. C'est à ce moment-là que j'ai acheté mes premières caravanes et je voulais vivre de cette manière-là, sans fantasme, sans cliché, ni quoi que ce soit, en sachant très bien d'où je venais, d'un quartier, comme je disais tout à l'heure, très commun en fait, où il se passe pas grand-chose en vrai, tu vois, mais où c'est pas non plus.
Oui, il n'y a pas de grosses barrières. Enfin,
non, mais t'es pas dans un ghetto non plus, si tu veux. Oui. Mais t'es dans un endroit où tu te fais chier. Quoi. Donc 2012, voilà, on a fait les Franco, on s'est retrouvés et dans la foulée, on a enregistré ce premier 5 titres. Qui est sorti, on a fait la sortie aux Zèbres où on a commencé à inviter les premiers musiciens de l'équipe.
Et bah, du coup, après toutes ces explications, je te propose qu'on passe le premier morceau de l'EP qui s'appelle Devant l'usine. On a choisi.
Alors, ça, c'était pas. Devant l'usine, c'était pas sur l'EP.
City Rockers.
Ah, pardon.
Sur le... Alors, l'EP, non, mais t'inquiète. Non, non, mais parce qu'on est parti là-dessus. Et l'EP, en fait, il est le premier 5 titres, on a pas le droit de le represser. Parce qu'on a fait deux morceaux dont on n'a pas les autorisations des ayants droit de Johnny Cash. Mais voilà. Et en 2015, dans la foulée, alors on a enregistré très vite en fin 2013, début 2014. On a enregistré, j'avais rencontré l'équipe, Ronan Drougard, Kik Liard, il y avait Tatou à la batterie, Emilio qui était toujours là.
Donc ça, ouais, c'est tous tes musiciens.
Et voilà, ça, c'est le premier combo, tous les cinq, qu'on entend sur ce premier album. On a enregistré fin 2013, début 2014, et le temps qu'ils sortent après, qu'on trouve un peu des bons deals et tout, machin, on n'avait personne. Avec Olivier aussi, ça prenait toujours un peu du temps.
Okay.
Mais des fois, prendre du temps, c'est pas mal.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, il est arrivé en 2015, début 2015. Et premier album de Johnny Montreuil, et ce morceau s'appelle Devant l'usine.
Et ben, je te propose.
Merci les amis.
Allez, on s'écoute ça et on revient sur la bulle mécanique avec Johnny Montreuil.
À tout de suite.
Mes gants usés, ma veste en cuir. Bu un fond de bord de chicorée. 6 heures du mat, je dois partir. Pourquoi papa as-tu un gros bâton et tous ces mots sur ton carton? Fiston pour me défendre. Devant l'usine, c'est la baston. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on pointe devant la grille. 3 semaines à se peler le cul et là ça devient difficile. Nos familles se serrent la ceinture, monsieur le patron a la dent dure. On lâchera rien, ouais on tient bon, devant l'usine c'est la baston. Hier encore les flics sont venus mais ils n'ont pas chargé. 2-3 menaces leurs vieilles insultes pour nous faire embaucher. Aujourd'hui ils doivent revenir, nos belles tronches dans leur ligne de mire. La chaleur monte sous nos fronts, devant l'usine c'est la baston. Je veux mettre des fleurs dans ton cartable. Travaille bien, tiens courage pour devenir un jour respectable. Pour ne pas en chier tous les jours dans ce vaste monde de vautours. Ne pas faire comme ton vieux daron trimé à la sueur de ton front. Regarde-moi mes mains, mes yeux, je joue un drôle de jeu. À qui tout double tous les jours la vie, on en fait pas ce qu'on veut. Oh,
je te parle de grand soir. Garde bien ça dans ta mémoire. Ni voyou ni bandit, ma fierté au bout de ce bâton. Ce sont eux qui nous tiennent au jour au bout de leur fusil. Ne t'en fais pas si maman pleure. Tu vois bien que je n'ai pas peur. Prends cette bise sur ton front et surtout évite les bastons. Prends cette bise sur ton front et surtout évite les bastons. J'ai enfilé de mais quand j'ai ma veste en cuir, puis un football déchiré, 6h du mat, je dois partir, je dois partir.
Et on vient de s'écouter devant l'usine de Johnny Montreuil, notre invité sur la bulle mécanique. Et bah c'était bien cool.
Bah carrément.
Donc c'était le premier album Narvalo City Rockers. Et après du coup l'évolution du groupe.
Bah disons que on a fait, tu vois, 2013 on a enregistré, 2014 on essayait de trouver des concerts plus ou moins, des mini tournées, des plans, c'était pas évident. Un ou deux, trois festivals, on avait fait musique à la rue dans l'été, mais on était tous les deux, c'était un petit fourre-tout. Mais ça a donné, en tout cas, à Montreuil, ça nous a donné énormément de crédit. Et après, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller jouer et se confronter à toute la scène rock'n'roll qu'il y avait à Montreuil.
Voilà, un certain Schultz.
À Montreuil, à Paris, donc Schultz de Parabellum, bien entendu, avec qui Kik, l'harmoniciste, jouait, etc.
Ouais, d'accord.
Et quand on est arrivé, ils ont vu les premières affiches de Johnny Montreuil et tout, ils ont fait si, qui se branleur. Et il y a des potes qui nous avaient vus avec Emilio, parce qu'on jouait, et avec Almadili et Johnny Montreuil, on montait les deux groupes ensemble, et on jouait vraiment, on faisait tous les cafés, on avait besoin et de jouer. Et aussi de faire de la fraîche, de vivre, parce qu'on voulait vraiment vivre de notre musique. Mais en tout cas, moi, ma position, c'était pas d'être intermittent, c'était de raconter un truc musical avec ce qu'on faisait, tu vois, d'avoir raconté notre truc et que ça puisse séduire des gens et qu'ils nous invitent et qu'on fasse des concerts.
Ah bah carton plein avec Narvalo City Rockers, hein, parce que je vais te dire, c'est ce qui s'est passé avec nous.
Voilà, quelques dates avec Almadili, les deux groupes, on tournait beaucoup, mais c'était fatigant parce que tu passais de l'un à l'autre et tout, merci. Machin. Et moi je partais sur l'enregistrement d'un deuxième album et donc en gros là Emilio m'a fait moi je pense que je vais arrêter l'aventure ici là, hein. Et puis t'as tout le batteur aussi, il dit moi je repars pas sur autre chose. Donc en 2016 les deux ils sont partis.
Ok.
Et entre temps j'avais rencontré le batteur de Slobodan Experiment et lui il était chaud, le batteur, je savais que le batteur était chaud. Et lui il avait à mon âge une assise et tout, il avait déjà une assise musicale que je trouvais très bon. Et donc on est parti sur le deuxième album avec Kik, l'harmoniciste qui lui est depuis le début. Lui il est venu au premier concert pour l'ouverture du 5 titres aux Zeb de Belleville en 2012. Et je lui ai dit je voulais l'inviter sur quelques titres à l'harmonica. Puis la semaine d'après il croise Emilio, puis il fait mais c'est quand les répètes là, moi j'ai trop kiffé, je joue avec vous et tout. Mais nous notre but c'était vraiment d'aller jouer partout, de se faire connaître. C'était une vraie envie de faire de la route ensemble, d'aller jouer là où on n'a jamais été, de faire découvrir notre musique et notre énergie et notre délire un peu, tu vois, de le faire découvrir aux gens, de le partager avec eux, c'était ça.
J'ai l'impression que l'objectif est plutôt atteint, parce que regarde, tu te retrouves sur la bulle mécanique. c'est quand même dingue, hein. Non, je rigole bien.
Ah mais non, mais ouais, c'est là, désolidarise.
Ouais, un truc comme ça. Ouais, mais voilà, non, par contre, en vrai...
Trois syllabes et je suis perdu.
Ça a plutôt bien marché, en fait, à force de persévérance, etc. Et d'aller un peu au culot, quoi, c'est ça le truc.
Ouais, au départ, vraiment, t'as pas le choix. Tu sais, ouais. Je pense vraiment, comme je te disais, c'était pas un plan marketing quoi, avec des maisons de disques, on va faire comme ci, on va faire comme ça, pas de... C'est vraiment un truc qui se fait avec le temps. Puis moi j'ai appris pendant tout ce temps-là, j'ai continué à apprendre la musique, à apprendre la contrebasse, à apprendre à chanter beaucoup mieux, à écrire mes chansons, à faire ça sur scène, mais pas que, et à vraiment évoluer. On va en venir après avec le dernier album qu'on a fait, le prochain qu'on est en train d'enregistrer, les producteurs musicaux que tu rencontres, comment ça te fait évoluer, ta maturité, ce que tu...
Il y a une évolution hein, dans...
Avec l'âge, voilà, puis en bien ou en mal. Hein. Après, il y a des gens qui vont aimer plus un truc au départ, ils vont pas forcément aimer comment tu fais les choses après, mais l'important c'est que toi, tu te fais plaisir, tu te sens toujours un peu excité par... pas que par des choses.
Oui.
Non, mais pourquoi tu me regardes quand par la musique. Ça, que... Moi, je me sens un peu.
Moi, je sais.
Parce que tu fais que des réflexions cheloues depuis tout à l'heure.
J'en ai fait qu'une seule.
Excusez-moi, je suis sérieux dans l'émission et justement, tu parlais de maison de disques et tout. Et est-ce que c'est pas contradictoire justement avec ce que toi t'as envie de faire? Est-ce qu'on t'impose pas des trucs?
Non.
Ah, c'est une bonne question. Ça,
est-ce que toi tu choisis vraiment ce que t'as envie de faire et on t'oriente pas un peu? Enfin, je sais pas si c'était très clair comme question.
Si, ouais. Si, c'est très clair. Et
tu vas prendre ta torgnole quand même.
J'en sais rien, tu sais, parce que en fait, okay. Moi, j'aurais bien aimé, en fait, je te jure, hein, mais comme n'importe qui, t'as envie d'être, je pense qu'un artiste, un musicien, tu veux te signer. Alors, avec tous les fantasmes que ça implique, et tu te dis, en tout cas, moi, j'aurais bien aimé, et depuis toujours. Travailler avec un producteur musical, avec quelqu'un qui m'influence et qui m'amène là où j'ai envie, là où j'aurais jamais été tout seul en fait. Et qu'on y aille ensemble, musicalement.
Musicalement, oui.
Oui, alors, il y a plein de maisons de disques différentes. T'as des maisons de disques où leur but c'est de faire que de la thune. Donc là, ils ont vu.
Que c'était mort.
J'étais pas le bon client pour eux.
Pas
je pense. Mais sans qu'on en parle, je veux dire, les mecs ils vont pas te voir. Ils font bon, lui, laisse tomber. Et à tort ou à raison, on s'en fiche. Mais en tout cas, ils vont. C'est pas. On n'est pas forcément des cibles. En 2012, au Francophonie, tu sentais un peu quand même ce truc où. T'as plein de gens que ça peut intéresser, que ça peut machin.
Ouais, okay.
Puis ils vont voir derrière c'est quoi, il y a quoi dans le potentiel, c'est quoi ton fond, c'est quoi, etc. Et en vrai, j'étais un peu pas une pipe, mais j'avais encore beaucoup de choses à apprendre à ce moment-là. Ça correspondait pas à eux ce qu'ils attendaient d'un Johnny Montreuil. Peut-être fort heureusement, parce qu'on a fait du coup derrière, on a fait les albums qu'on a vraiment voulu faire. Avec Olivier Moulin toujours et sa boîte de production, on a continué à faire des albums comme on voulait. Lui pouvait monter des montages pour créer un album, pour produire un album de cette manière-là, hors label, hors champ, de manière très indé, etc. Mais c'était pas un choix, c'était un choix par défaut en vrai. C'était pas autant vivre en caravane, c'est un vrai choix pour moi.
Ouais.
C'est pas parce que j'étais dans la merde et qu'il me fallait trouver une caravane. Autant la manière de produire ces albums de cette manière-là, c'est parce qu'on n'avait pas d'autre solution en fait. Et que donc on a pris les choses, mais pour pouvoir raconter ce qu'on voulait dire.
Rester avec les copains, quoi. Enfin, avec des gens de confiance qui.
Ouais, bah de toute façon, c'était le plaisir de. Bah, c'est pareil aussi, c'est un équipage quoi. Tu montes à bord et puis hop, on y va, quoi. On prend la mer. On va voir ce qui se passe et là faut qu'on s'entende, on n'a pas le choix et on y va.
Et sinon d'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su t'étendre quand t'étais amoureux.
Oui.
Moi je me foire pas là-dessus, c'est bien une chanson que tu affectionnes.
C'est une chanson de Gainsbourg. Écrite par Gainsbourg avec Michel Simon dans le film.
Eh ben je ne l'ai pas. Et là,
et hop.
Voilà.
Je l'ai pas non plus.
Mais tu vois, j'ai préparé un minimum. Hein.
Non mais oui, des références. Non mais oui, ça c'est vraiment. Moi tu vois, ce que je te disais tout à l'heure en parlant de Johnny Montreuil, la genèse du nom. Il y a Johnny pour tout l'Americana, le folk, le blues, le rock'n'roll américain, tout ce qui vient de cette époque-là, etc. Et le Montreuil pour tout côté de ma mère. Tu vois, le langage fleuri un peu là, des faubourgs. Elle aime bien ma mère, tu vois, l'argot, Titi Parisien.
Donc, voilà, Renaud l'a bien chanté.
J'allais dire un peu aux valseuses ou le Bernie Noël.
Alors même avant
pas
ça.
Bernie Noël, pardon, Bernie Bon Voisin.
Oui, les démons de Jésus. Les démons de Jésus. Ça c'est putain, bien après, mais tu vois, même avant les chanteurs réalistes, quoi, les chansons toxiques, toutes ces chansons du vieux Paris, plein de trucs. Aristide Bruant, j'avais découvert avant aussi plein. Ce truc du vieux Paris, Brassens, tout ça, j'avais vraiment ado, j'ai vraiment avec la guitare, j'avais toute cette poésie urbaine de l'époque, tu vois, mais j'en cite que quelques-uns, mais toutes ces vieilles chansons, Francis Lemarque, après t'avais plein, tout ce qui, moi j'ai voilà, je vois un culte, toutes ces vieilles chansons parisiennes, et donc Et donc voilà, donc l'herbe tendre, ça correspondait un peu à ce truc-là. Et puis c'était un vrai hommage à Serge Gainsbourg, qui est franchement le chanteur, le musicien français pour moi, qui a eu le plus la classe depuis qu'il est mort. Il n'y en a pas un qui arrive à son niveau, je trouve.
J'ai voilà, une petite question, moi. Peut-être qu'elle sera bête. Mais tu cites Brassens, tu cites Gainsbourg et tout. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu as fait ou est-ce que tu voudrais faire des reprises de ces artistes que tu aimes?
Alors, Gainsbourg, dans le deuxième album, Narvalo Forever, on reprend l'herbe tendre. On reprend ce morceau-là.
C'est simplement, peut-être,
tu voudrais dire un album de reprise?
Non, pas forcément un album, mais vraiment une musique où tu reprends tout, vraiment de A à Z.
Ah, à l'identique, tu veux dire?
Tout à fait.
Je le fais, j'adore... avec ma guitare,
ouais, tout seul,
mais avec des amis, comme on est, c'est simple, on se passe la guitare et chacun fait une chanson quand il a envie,
ouais,
on passe des nuits comme ça. Et c'est vrai que sur scène, de refaire quelque chose à l'identique.
Bah pourquoi pas?
Mais pourquoi pas, ouais, t'as raison. Parce je trouve ça toujours plus intéressant de
proposer quelque chose qui.
Ouais, alors sans se prendre la tête.
De le revisiter.
D'accord, sans faire un truc. Branlette intellectuelle. Oui, là, tu comprends, personne n'a remarqué que c'était cette chanson-là, du coup, c'est intéressant. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais il y a des textes qui sont bien. Mais refaire à l'identique quelque chose, ouais, je trouve ça dommage en vrai. En vrai, parce que.
Ce serait un bel hommage.
Non, mais par exemple, tu vois, Rachita, que j'ai rencontré sur le premier album.
Ouais, sur L'amour au balcon.
Non, c'est... Ah, là,
Rachita, par exemple, tu vois, lui, il a fait des reprises. De il a fait beaucoup, beaucoup de reprises. Ouais. Surtout son premier titre avec Carte de séjour, il reprend Charles Trenet, tu vois, Douce France. Son titre qui le fait connaître au nom de. Pour toute la France dans les années 80, où il reprend Douce France en chantant en oriental. C'est génial, tu vois. Mais. Il le fait pas à la Charles Trenet directement, justement, ouais. Il se l'approprie.
Il manque la signature.
Il se l'approprie, ouais, il se l'approprie. Il a repris Rock the Casbah des Clash, tu vois, Rock El Casbah, où les mecs des Clash, ils se sont fait putain, ta version, elle est encore mieux que la nôtre. Et machin.
C'est
intéressant de les faire évoluer les morceaux, sinon on reste. Tu vois, les mecs, par exemple, dans ce que je fais contrebasse-voix. Tu vois, des trucs, là, contrebasse-voix. Et donc, ils voient les mecs, il y en a plein en France et ailleurs. Rockabilly, années 50, les Buick, les chemises, les drapeaux sudistes, ils vous faire foutre et tout. Mais ça m'intéresse pas, tu vois, de refaire des trucs. Et eux, leur délire, c'est de refaire comme c'était dans les années 50.
Je vois ce que tu
dis. Et je trouve ça un peu, c'est dommage parce que moi, en cité, moi, où j'ai grandi, les premiers instruments, c'était des darbouka. Il y avait plein de choses, tu vois, il y avait plein de... Parce que forcément, ta musique, elle est empreinte de quelque chose, puis de ce que t'as entendu. Après, voilà.
Tu mélanges, ouais.
Ça veut pas dire que tu sais bien le faire. Hein. C'est pas parce que...
Non, c'est sûr.
Mais je trouve ça intéressant d'aller chercher une version qui est pas celle que tout le monde a entendue, sans rentrer dans un truc trop prétentieux.
Pour réveiller un petit peu la nostalgie.
Faut que tu puisses la retrouver, pour moi. Oui, faut que tu puisses la retrouver, que tu puisses la reconnaître, qu'elle puisse t'amener ailleurs. Tu reconnaisses les thèmes, tu reconnaisses des choses, tu vois, sur Rebel Val, ce qu'on a fait sur le dernier album des Clash.
Mais on peut pas la mettre là, Nono?
Non, moi je vous propose d'aller chiner la ferraille, les amis.
Allez,
on se retrouve après.
On y va.
J'espère que vous avez votre vaccin anti-tétanos.
Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille. Camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau Qatar. Oh, j'aime pas ma gueule, elle fait peur. Tout fripé, mon accent qui vient d'ailleurs, tes mains. On se fait chasser de partout. Enfin, chez moi, c'est plutôt des flaques de boue tous les jours. Raté pour un bifton tous les jours. Raté pour la maison, raté de la lune pour des mouchoirs. Pour tous mes gosses et sans paplard. Mes bifton et ce qui reste de mes talbins. Cherche pas à la carpe, ça vient de tes poubelles, mon copain. Et si on a du goût, on a du cœur. Bah ouais, ma gueule, sur mon honneur, je suis ferrailleur. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion.
Bah ouais, c'est comme ça, c'est mon affaire, mes vis d'étrangle, des cuisinières, des machines à laver, des cafetières, le banquier de ta grand-mère, la Rolex de ton père, je deviens fou. Je vais te faire partout, je deviens fou. Enfer et contre vous, je deviens fou. Toujours chiner les mêmes escrocs, fou. Pour trois louvées, pompes de raccro, à vous messieurs dames. Et prix de liberté, matez-moi mieux que ça quand vous me voyez arriver. Allez, je m'en attends, j'ai ma tire à réparer. En rêvant une fois qu'un jour j'aurai beau lever. Chiner la ferraille dans vos beaux camions. Je m'en vais chiner la ferraille dans vos beaux camions. Oh. Pour la convertir en dollars.
Du coup, on vient de s'écouter Chiner la ferraille de Johnny Montreuil sur ton deuxième album.
Non, dans son grand camion.
Sur le deuxième album, ouais.
Sur le deuxième album. Donc, on a parlé de tes deux premiers albums. On peut passer au troisième que tu as sorti en 2024.
Ouais, ouais. Bah, le deuxième, Narvalo Forever, là, on l'avait bien aimé. On a pris le temps de le faire. Ça allait mieux. L'équipe était plus... Ouais, on avait fait des dates déjà, ça, on commençait à se faire un peu connaître à droite à gauche. L'album, on prenait énormément de plaisir à le faire. On avait passé quelques paliers entre nous, ça jouait mieux, on savait plus ce qu'on faisait. Et puis le Covid est arrivé, donc la tournée s'est arrêtée en pleine
pandémie,
en pleine ascension.
Malheureusement.
Comme plein de gens, et puis il y avait beaucoup plus grave que ça à ce moment-là.
D'ailleurs, on ne le salue pas, le Covid.
Et toi, du coup, au niveau du Covid, qu'est-ce que ça
Perte de goût.
Qu'est-ce que ça a généré comme difficulté?
Bah, aucune.
Alors, attends, je dis difficulté, mais ça peut être aussi... Il y a des gens pour qui le Covid a aidé, à créer, parce que c'est du temps. Vu qu'on était tous confinés chez nous comme des cons, il y a des gens pour qui ça a pu aider à réfléchir.
On était à l'arrêt, il n'y avait pas de concert, il n'y avait rien, donc on s'est dit le deuxième album était bien, on va en faire un mieux, on a le temps, on se voit, on s'enferme dans des maisons, et on avait le désir, par rapport à l'album précédent, de faire un truc vraiment ensemble, avec effectivement, comme tu disais tout à l'heure, sur scène, moi, j'ai décidé de m'appeler Johnny Montreuil au départ, etc. Mais c'est vrai que c'est devenu une entité, un groupe. C'est vrai. Mais chacun a sa personnalité là-dedans. Et chacun peut partir quand il veut. C'est ça aussi. C'est une très grande liberté. On n'est pas tributaire de... c'est pas une secte où si tu pars... chacun fait ce qu'il veut. C'est libre, complètement libre. Si on est ensemble, c'est parce qu'on a envie. C'est pas parce qu'on se doit quelque chose.
Oui, il y a la cohésion.
C'est pas de la contrainte.
Ça, je l'ai déjà vécu et ça m'avait beaucoup blessé.
Un groupe précédent, tu veux dire,
ouais, enfin tu dois des trucs, enfin tu dois dépendre de quelqu'un, chacun peut faire, okay. S'il y en a qui veut être casse-couille, il peut être casse-couille parce que si je m'en vais non, ça n'existe pas, enfin c'est inconscient tout ça, je veux dire, mais en tout cas je trouvais ça, et puis j'en veux à personne, surtout pas, c'est des expériences, c'est que des expériences qui m'a amené à me dire ça en fait. Donc là, mais par contre dans la construction, donc le deuxième album je l'avais fait en tout seul, en jouant avec un tel, en invitant Riquier sur l'herbe tendre, en invitant Cropol au trombone sur Blackie, en invitant René Miller sur beaucoup d'intros de guitare qu'il fait au dobro, qui venait quand il voulait, David Chalumeau qui est venu aussi à l'harmonica. Et là, il y avait l'envie, on avait joué, on avait fait de la scène, on avait travaillé le live, etc. Donc il y avait vraiment l'envie, notamment de Steven, du batteur, de créer, de faire un album vraiment collectif. Dans la création, dans la composition. Alors l'écriture, je garde plus, il n'y a personne vraiment qui écrit, je gardais, mais dans l'approche musicale, de vraiment le faire ensemble. Et donc on arrivait à la composition de ce troisième album,
Zanzibar,
qu'on a mis, voilà, qui était prêt, et on avait travaillé avec François Cos, un réalisateur, un producteur d'albums sur le deuxième. et quand on était prêt avec les pré-prod, les maquettes, ce qu'on a fait tous ensemble pendant cette période un peu où il se passait rien. Mmh. Alors après, pardon, je n'ai pas répondu exactement à ta question. Qu'est-ce que ça a provoqué, le Covid ou pas? Oui. Franchement, moi, j'ai juste vu que le monde devenait de plus en plus pitoyable.
Ah, mais tu sais quoi, Tchèque? Mais du coup, toi, non, mais
ça m'a meurtri, ça m'a fait du bien parce qu'il ne se passait rien. À ce moment-là, c'était dégueulasse, les zombies là dans la nuit qui livrent pour les gens qui bougent pas de chez eux. Ils ont
c'est
mis
clair.
En place.
Puis ça a continué.
Ils ont mis en place un système. Oui, ouais, oui, voilà, mais complètement. Fait, ouais. Et pour la musique, on a commencé à avoir des gens qu'on n'avait jamais vu faire de la musique. Du coup, ils sont dans leur chambre, là, ils peuvent se permettre parce qu'ils filent pas du public. Non, mais ouais, c'était une période quand même. On en reparle. Je pense, j'imagine que vous avez déjà dû en parler énormément. Où,
pour les artistes, ouais.
Tu crois que, puis finalement non, puis alors derrière les deux années cheloues de assis, distanciel, ils ont mis des et les ados, j'en parle même pas, les jeunes qui sont complètement sonnés dans tous les sens, c'est comme dans les phares, quand t'es dans les phares, c'est plus ce que tu dois faire à gauche, à droite.
C'est là que tu bouges à l'endroit où fallait pas bouger.
Et du coup, lui, il pouvait plus chanter sauf s'il était assis.
Et il y a quand même plein de projets, il y a plein de, alors ils appellent ça des projets, il y a plein de groupes de musique ou des artistes qui ont aussi émergé pendant cette période.
Oui, c'est vrai, mais dans un autre style.
Le contact, tu vois, le rapport, c'est peut-être parce que j'ai appris comme ça, ouais. Peut-être. La proximité, en tout cas le rapport avec le public, il est important dans la musique. Hein.
Alors, t'as envie de partager quand tu fais
le partage, exactement.
Je pense qu'il y en a, c'est pas trop leur truc non plus. Ils préfèrent rester dans leur chambre. Ouais, après, quand vient leur face.
Ils y restent, mais je veux dire que moi, je vais voir un concert. Et je parle encore de musique traditionnelle, musique africaine, de plein de trucs où c'est les danseurs qui vont rythmer la musique. Face Nose ou quoi, machin, même si tu prends pareil. C'est-à-dire que le public, il fait partie du concert, en fait. Vraiment, avec les grosses majeures, avec la musique, tout ne peut pas t'exister. Mmh. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a que ce phénomène-là. Et puis, un artiste, il est un artiste musical ou un chanteur, un musicien. Je parle des gens que j'aime bien, je ne parle pas de moi ou quoi. Parce que ce qui me plaît à écouter ou quoi, ouais. Et ben si tu regardes les streams, les machins, les vues, donc tu fais un prout et tu montes tes seins, t'as des vues.
Et t'écoutes la même chose que tout le monde.
T'as pas besoin de faire le prout, hein, tu montes tes seins.
Bah ouais, attention, quelqu'un d'extrêmement talentueux, des musiciens, il y en a aussi, des génies, je cache pas ça. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, en France, ce qui se passait, et notamment avec l'intermittence, en tout cas, il y avait quelque chose qui, pour moi, dans l'air du temps, et dans le message et dans le discours, dire que on disait que la culture et la musique, c'était quelque chose dont les gens avaient besoin, qui leur permettait de s'élever, une
se
forme
construire.
D'éducation populaire, une forme, ouais. Ça existait, donc on le développait. Donc, voilà, un groupe au local, peu importe, on met en place quelque chose dans l'économie, c'est-à-dire que l'argent, on le redistribue pour que cette chose-là existe pour tout le monde, qu'elle soit pas chère, qu'elle soit accessible à
tout le monde.
C'est le principe de la culture.
Donc c'est plus le cas du tout. Donc ça veut pas dire que se battre, c'est pas devoir se battre, c'est pas forcément bien, quoi. Mais je parle avec des anciens, des mecs avec qui j'ai travaillé, ou des gens, des mecs qui sont, ils sont pas sur la paille, mais pas loin. Et t'enlevé 2-0 à ce qui. Alors peut-être que c'était trop, mais t'avais plus rien. C'est-à-dire que les mecs, ils ont inventé avec tout ce système là. De stream, etc., de plateforme, etc., ils ont tout recentré sur eux, et la redistribution n'existe plus, en fait. Ils ont tout pris pour leur gueule.
Ouais,
comme dans bien d'autres domaines. Hein. Attention, je parle pas que de la musique.
C'est ce que j'allais dire.
Mais en tout cas, aujourd'hui, on en a.
Ça marche pour tout dans la vie.
Tu fais de la musique aujourd'hui, tu le fais parce que t'as envie, parce que tu crois, parce que ça te fait du bien, parce que t'existes, quoi, parce que c'est ton truc.
Ta thérapie aussi, des fois.
Ouais.
D'ailleurs,
c'est compliqué, hein.
D'ailleurs, j'ai une petite question à ce sujet. Est-ce que la musique que vous proposez, vous visez un public particulier ou oui ou non? Est-ce que le retour que vous souhaitiez avoir, vous l'avez?
Pour moi, c'est une. J'ai appris à jouer dans les cafés.
D'accord.
Donc, pour des gens qui ne sont pas là pour forcément écouter de la musique.
C'est sûr.
Et d'essayer de les séduire et de les faire donner un intérêt à ça. Sans prétention, encore une fois, mais de me dire. La musique, comme moi, en fait, tu sais, là, je pense que moi, vraiment, je joue de la musique comme j'aurais aimé l'entendre quand je la jouais pas, comme je l'écoutais pas, ce que j'aurais aimé voir ou écouter, ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, donc avec une énergie, un phrasé, qu'il se passe quelque chose, que ça me percute, que ça me. Mais il n'y a pas une génération ou un âge plus ciblé qu'un autre, il n'y a pas une couche sociale plus ciblée qu'une autre. C'est un moment de rêverie, d'évasion,
de
un
partage
peu,
aussi,
de lâcher peut-être. Prise, de partage avec les gens. Et voilà, j'essaie d'écrire des chansons, j'essaie d'amener une énergie qui me plaît, qui m'a parlé beaucoup et puis voilà, qui correspond à tout ce que j'ai pu écouter depuis, etc. Mais ça correspond vraiment à quand même à quelque chose qui te fait sortir de ton quotidien, qui t'amène ailleurs, qui te fait du bien, quoi.
Oui, donc en fait, tu fais comme beaucoup d'artistes, excuse-moi, peut-être que...
Non, mais dis ce que tu veux.
Ça me fait penser à beaucoup d'artistes qu'on a reçus ici, qui nous disaient qu'en fait, ils produisent avec leur trip, avec leur cœur.
Ah bah, la majorité des artistes, sinon c'est pas des artistes.
Ouais, mais il y en a, non, tu le sais très bien. T'as pas cherché à viser un public... quelconque, t'as voulu
ce
partager
ce que j'ai dit au départ, c'est voilà. Pas un plan marketing c'est mon délire, c'est un besoin,
mais ça a été du début à la fin, c'est à dire que même aujourd'hui
oui non mais c'est un besoin, c'est un vrai besoin. Non mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est au départ, sincèrement, c'est peut-être comme vous montez cette émission là, c'est un besoin de sentir exister à travers quelque chose. Mais en vrai, il y a un truc, quand t'as un truc qui te tient à cœur, t'as pas envie de le lâcher, en fait. T'as pas envie de le laisser à quelqu'un. T'as envie de le faire. T'as envie de le prendre.
C'est ton bébé.
Et puis, c'est une vie. Après, avec la musique, avec tout ce qui se passe autour, comment on en vit, comment des fois, c'est hasardeux, on sait pas. C'est le goût de l'aventure, le risque. La musique, c'est une aventure, plus souvent.
Bien sûr.
Donc, on sait pas où ça va aller, on sait pas ce qui va se passer. Par contre, on sait qu'on n'a pas, le matin quand on se lève, il n'y a pas quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire. On le fait pour nous, on le fait pour plein de gens, on le fait d'abord pour nous.
Pour partager avec le public, je pense.
Oui, mais on le fait pour aller bien soi-même dans sa vie, quoi. Pas se dire, putain, ouais, 18 ans, tu dois choisir un métier, je sais rien, moi, parce que laissez-nous tranquille, en fait, on a le droit de.
Et puis il y a le droit de prendre le temps. On a le droit à dépoussiérer, non, c'est pas ce que tu dis dans l'interview.
Non, du tout, non. Non, il y avait...
Plus ce côté de liberté, comme quand toi t'as choisi d'aller à Montreuil dans une caravane et d'avoir ce...
Ça, c'était lié, ça, c'est ce que... La caravane, c'est... J'aurais pu être boulanger, charcuterie...
Oui, ça, mais
c'était pareil, j'ouvrais les yeux le matin, je dis... Ah.
Je fais ce qui me plaît.
Ah, non, mais je suis à l'endroit où j'ai envie d'être, je vis comme j'ai envie.
Du coup, t'as répondu à ma question, je te remercie. Mais si vraiment tu mises tout sur toi, ce que t'as envie de dégager et ton... la musique que tu proposes, elle sort de tes tripes. Est-ce que ça t'est arrivé de te dire, oh bah mince, putain, je m'attendais pas à voir mamie de 60 ans, Thomas de 16 ans, waouh. Est-ce que t'as été touché par un public que tu t'attendais pas à voir? Est-ce que t'as déjà eu cette expérience-là? Parce que, enfin, je pense que, encore une fois, à la base, tu t'en fiches, tu fais ta musique.
Non, je m'en fiche pas.
Non, mais, enfin.
C'est pas le but recherché, mais ça fait quelque chose quand
ça touche des gens, quand il y a des gens qui découvrent en concert, qui disent « Attends, je connaissais pas !» Alors, je le prends pas par rapport à moi, je le prends vraiment par rapport au groupe et ce qu'on dégage sur scène. Et oui, c'est ça qui te donne envie de... Qui te donne
mais t'as déjà été surpris continuer. T'as déjà été surpris de...
Tu veux dire du contraste entre une mamie et un jeune, qu'il y a ces deux personnes-là qui puissent aimer.
Ouais, voilà.
Ah non, au contraire. Je pense que les gens.
C'est gratifiant.
Je pense que tu fédères tout le monde. Hein.
Pas, alors peut-être pas forcément tout le monde, mais en tout cas beaucoup de générations. Mais en tout cas, je pense que c'est pas un truc. C'est pas quelque chose de très mainstream qu'on fait. Donc ça touche des gens pour certaines choses, pour d'autres pour d'autres choses. Mais je pense que c'est toujours des gens un peu particuliers, peut-être.
Ouais. Et puis c'est vrai que t'as des textes qui peuvent parler souvent à tout le monde, mais avec ton authenticité. Donc je pense que c'est.
C'est validé.
Ouais, voilà, c'est validé, exactement. Mais on va arriver sur une fin d'émission, les amis, comme d'habitude.
Alors moi, je voulais juste dire un truc, et c'était... c'est juste toute ma franchise, encore une fois.
La groupie va parler.
Non, c'est pas ça. Après,
je vous aimez bien tous les deux, Germain.
On s'adore, c'est
carrément,
la
bombe vache. Carrément, non, mais parce que moi, j'ai été... Je plus été touché par le Narvalo City Rockers que par les albums d'après.
Ça, c'est
juste un personnel.
Tu sais, pour moi, ce que tu dis, c'est très très subjectif. Et en vrai, t'as complètement le droit. Donc, chacun a raison, en fait, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il repense, dans ce qu'il pense. Peut-être. Et moi, si tu veux, moi, chaque album, je l'ai fait comme si c'était le meilleur album de toute ma vie.
Ton premier bébé.
Donc, il y en a, ils sont différents avec le temps. Il y en a que tu préfères. Il y a des morceaux. Il y a des périodes aussi. Je pense que tu nous as découvert au moment de ce truc-là et que tu l'as écouté dans la foulée. Ça a un impact particulier, si tu veux.
Je
te prends le groupe que j'avais avant, qui s'appelait Prince Chameau, avant que je fasse Johnny Montreuil. On a fait un album et on a eu une période avec des morceaux et plein de potes qui m'ont vu commencer à faire de la musique à ce moment-là.
Complètement différent d'ailleurs.
Et eux, quand j'ai commencé Johnny Montreuil, donc notamment le premier album, par rapport à Chameau, ils font, pour eux c'était. Eux c'était un moment, ça correspondait à un moment, une période de leur vie aussi, où cet album, c'est des albums qu'on a écoutés. compare pas aux grands albums que les ados écoutent. Mais tu sais, des albums, plein de trucs qu'on a écouté, nous, quand on est à un moment de notre vie. Tu vas prendre Bob Marley, tu prends un artiste que tout le monde connaît. Dans tous les albums qu'il a fait, il y a des albums qui vont chacun nous parler plus que d'autres, des morceaux qui vont nous parler plus que d'autres.
C'est pour ça que c'est subjectif en fait. Oui. Parce que ça dépend de ton passé, ça dépend de plein de choses.
Oui, puis ça correspond à un moment de ta vie.
Tout à fait. Oui,
et la musique, c'est ça qui est trop beau en fait. C'est que tu réécoutes un titre et tu vois ce que tu dis là. Tu dis, oui, par rapport aux autres albums, ça peut être une critique. Non, mais je suis super fier. C'est-à-dire que cet album-là pour toi. Ah ces morceaux-là pour toi, c'est marqué, bah c'est bijou. Au fer rouge pour toi.
Ah bah complètement.
Et tu vas, et bah putain.
Et bah surtout que je témoigne.
Réussi notre coup, tu vois.
Je témoigne cool, que Couscous, c'est vraiment une groupie hein, pour le coup.
Non, on s'est rencontrés à Courzic au festival.
Oui, c'est vrai que tu
fais. Et puis voilà, dans le coin. Et puis il m'a dit tu viens à l'émission, tu viendrais. Je sais pas, oui, avec plaisir. Mais avec plaisir. Pourquoi tu.
Mais déjà,
de discuter de ça, de rencontrer des gens qu'on connaît pas.
Mais déjà, à ce moment-là, j'ai
fait un plan à concert à Charleville-Mézières en plus maintenant.
Ah bah franchement.
Trop bien, trop bien.
Bah, c'est génial. Et pour tout le monde en plus.
Ouais, franchement.
Et pour tout le monde. Bah, tu parlais de Bob Marley, mais c'est pas un des premiers vinyles que t'as acheté.
Bah, c'est un des trucs que j'ai trouvé en brocante. Si j'apprenais la guitare et il y avait
Alors je trouve plus
au quartier où j'étais. C'était les Clash, Give Me Enough Rope.
Voilà.
Mais t'as bien écouté l'émission de Manœuvre, toi. Hein.
Ouais, je pouvais pas encore écouter celle-là.
Espèce d'escroc.
Non, en tout cas, c'est Philippe Manœuvre qui nous a écouté. L'émission est sortie avant.
Hein. Mais ça, c'est un truc que je dis à tout. J'espère qu'il y a plein d'adolescents qui apprennent la guitare. Moi, j'ai un prof de guitare dans mon quartier qui nous disait passer des disques. Donc, encore beaucoup de vinyles à l'époque et tout. Mais jouer sur les disques, quoi. Jouer dessus, prenez des disques de blues, jouer dessus, apprenez à jouer sur les disques, après, travailler l'oreille, tu vois, vraiment. Et donc, moi, il y avait des brocantes, tu sais, et puis je voyais, et puis je connaissais pas grand chose, hein, tu vois, en musique, hein, vraiment, des trucs que t'avais vus, j'étais à la FM, vraiment, j'étais pas, je sais pas quoi dire. Mais en tout cas, voilà, tu voyais, oh, Bob Marley, oh, les Clash, j'ai entendu, oh,
les Clash.
J'achète, mais je sais pas c'est quoi le truc, toi. Bob Marley, si tu connais un peu, mais.
Ah, les Clash, tu savais pas du tout. La
fait,
pochette, elle t'a plu.
J'avais entendu un truc, mais c'est. Ouais. Johnny Cash, c'est pareil. J'ai découvert sur les trucs Americana quand j'étais au Canada, tu vois, sur les derniers albums produits par Rick Rubin et tout. Et je reviens en France et je cherche des trucs de Johnny Cash et je tombe sur ses premiers albums, années 50.
Encore
je
mieux.
Fais, c'est quoi cette merde? C'est quoi? C'est pourri. C'est pas ça que j'ai entendu et tout, machin. Je sais pas les productions que j'ai entendues là qu'on m'a fait écouter, où il a une voix d'outre-tombe, où les arrangements ils sont modernes et tout machin. Donc je tombe sur les vieux trucs chelous. Je sais quoi ce truc, t'as la voix de canard et tout machin. Donc tu vois, vraiment ta culture tu l'as fait comme ça, en ouvrant des portes, en rouvrant des portes, en allant chercher.
En enfermant pas surtout trop rapidement.
Et pas en faisant trois clics ou trois scrolls, tu vois. Enfin. Et je dis ça pour moi parce qu'on s'est fait baiser comme tout le monde pareil avec ça, tu vois, mais voilà, mais vraiment faut se donner le temps d'aller chercher, d'écouter,
t'auras toujours à découvrir en plus, et puis la première écoute n'est pas forcément
de prendre le temps de trouver par soi-même, quoi, de pas tout avoir tout de suite, de pas avoir la méthode qui va t'apprendre le truc et machin. Ok, je vais faire ça, je l'ai fait. Non, faut prendre
Attends,
je peux te poser une question pour mettre nos noms en PLS ou pas? Tu penses quoi du vocodeur?
Attention, tu veux m'utiliser à tes propres fins là.
T'as entendu sa question?
Tu penses quoi du vocodeur?
Ça dépend qui l'utilise.
Bien sûr, c'est bien l'autotune. Mais tu peux tout utiliser. Il suffit de. Mais oui, en fait, c'est une histoire de goût après.
Mais je pose la question parce que il aime bien l'authenticité. Il aime bien.
Alors que moi non.
Oui, non mais moi je trouve que tout. En fait, si tu veux, dans le dernier album, on a mis de l'autotune sur un morceau, tu vois.
Arrête.
Faut pas que
je
me le mette.
Non, mais pas en voix lead, tu vois, mais je l'utilise. Mais c'est parce que c'est amusant, en vrai. T'enregistres en studio, mais n'importe quel truc, c'est amusant. Et t'as des outils qui servent à quelque chose. Des choses qui peuvent. Enfin, tu vois, les meilleurs ouvriers, c'est les plus feignants. Donc, ils vont inventer un truc pour pas se fatiguer, pour se niquer.
Exactement.
Bah, ma question était pertinente, finalement.
Mais toujours.
Alors, après, pour le chant, alors là, on rentre dans l'histoire du chant. Donc, si on corrige. Et on empêche cette libération parce que hop, ça chante juste et on s'en fout. Non, mais on n'a pas le temps là. T'es en studio,
ça dépend comment tu l'utilises.
Il y a quelqu'un qui passe après. Il y a quelqu'un qui passe après toi là, donc dépêche-toi. Et puis t'inquiète, je vais tout régler après. On s'en fout. Bah, ça fait que ça mène vers la médiocrité. Laissez parler Nono, il a quelque chose à dire quand même.
Je
trouve qu'il mène très bien son émission.
Il veut que je te pose la question.
Alors non, avant ta question, il avait quelque chose à dire.
Voilà, et on est d'accord.
Ouais.
Avant la question finale de Mélanie, la question de la baguette magique comme d'habitude, justement on va arriver sur une fin d'émission et je voulais qu'on rappelle aussi tes projets futurs, tes dates.
Donc on a sorti, Zanzibar, le troisième album, là en 2024. On a fait une très belle année, des belles dates, on a fait la maroquinerie pour lancer, on a joué en province, on a fait l'Encigal fin octobre à Paris. C'était incroyable, qui a lancé sur d'autres choses. La rencontre avec Jean Lamotte, très grand producteur de musique sur le troisième album. Et puis avoir envie de continuer à faire de la musique et aller plus loin encore. Donc on est reparti sur un autre enregistrement. Où là, c'est nous. Il n'y a pas une commande ni rien. On commence le truc et on va voir où ça va nous mener. Okay, avec quelle prod, etc., etc. Mais on le fait dès qu'on a du temps. Hop, on est en studio ensemble. Il y a Marceau qui est là. Il y a Camille. Il y a toute l'équipe du groupe qui est encore bien prêt, qui va être présente sur cet album. Et des concerts. Donc on a fait une bonne quarantaine de dates sur 2024. Et 2025 c'est reparti avec d'autres dates. On repart avec un nouveau tourneur pour la suite aussi.
Là vous revenez de Bretagne.
J'invite tous les auditeurs, s'ils veulent savoir où on joue, à aller sur notre site johnnymontreuil.com où il y a toutes les dates qui sont affichées. Et j'ai un groupe de musique cajun, on accompagne un vieux bluesman américain aussi, donc on détourne des dates dans un circuit un peu plus local ou un peu plus alternatif. Je vais aussi intégrer un projet qui s'appelle Frères de Misère, donc un hommage à Mano Solo, qui a été fait donc, par le groupe mythique avec qui jouait Mano Solo.
C'est les mêmes musiciens ?
C'est les mêmes musiciens.
Ok, trop bien.
Et avec trois chanteurs qu'ils ont appelés pour ce projet-là, Fred des Ocs de Barbac, Laurent Kebous de Le Monde Léo et Mélis Mel. Et donc ils m'ont généreusement invité à venir chanter Mano Solo, entre autres, et le nouvel album qui sort aussi. Donc voilà, très vite.
Bah ça, je vais suivre en tout cas, parce que ça me plaît bien.
Et c'est quand te revoit jouer un méchant dans une série policière française, il n'y a pas eu des trucs comme ça?
Alors, il y a eu ça dans Frères Ennemis, il y a eu du Cinoche aussi. J'ai joué dans Enfanfare aussi, qui est sorti là, cette année, fin 2024, un chef d'orchestre. Mais alors, pour répondre à ta question, un méchant, alors je vais se tourner un truc là pour Netflix, série qui s'appelle Bandit. Si tu veux, je fais un docker, machin, mais j'ai pas un rôle et je soutiens rien en fait. Moi je suis invité en guest, pas parce que je m'appelle Johnny Montreuil et genre je suis célèbre.
C'est à la gueule aussi.
Parce qu'il y a un agent, une copine qui me place sur des trucs, ça m'amuse énormément de faire. C'est une journée ou deux de tournage, c'est rigolo, ça me fait découvrir autre chose, c'est drôle, mais je suis chanteur moi, je suis pas.
Et pourquoi pas?
Pourquoi
tu
pas.
Pourrais être un petit couteau suisse français.
Oui, mais ça m'amuse
une petite
énormément.
Baguette magique.
Mais pourvu que ce soit excitant, amusant et que ça soit, j'ai pas l'impression de, comme je disais au tout début de l'émission, d'aller cachetonner ou d'aller faire la course au cachet.
Tu vas pas récupérer tes
sous. Non, j'ai fait un tournage, t'as un petit billet qui tombe, j'ai pu m'acheter ma grosse caravane et tout machin.
C'est toujours
ça. Mais tu le fais pas pour ça.
Oui.
Je suis pas allé pour ça. Je fais je prends la thune, je m'en fous, allez, bah les couilles. Jamais.
Et du coup, Mélanie.
Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? Tu as deux vœux, deux choix. Qu'est-ce que tu ferais?
J'ai deux choix. Donc j'en donne une en premier et une deuxième après.
C'est pas dans la vie perso, dans la vie pro.
C'est ça. En fait, oui.
Si j'avais deux vœux.
Dans la vie pro et dans la vie perso. Alors, par contre, si t'as pas envie de parler de ta vie perso, il y a Joker.
Tout YouTube.
Voilà, tout YouTube, Joker.
Dans ma vie professionnelle, mais en fait, c'est ni professionnel ni personnel, c'est dans la vie tout court.
Ouais, vas-y.
Qu'est-ce qu'on ferait avec une baguette magique
et avec deux vœux?
On ferait en sorte que.
Pas pour le monde, parce que le monde, ça restera la merde. Hein.
Si tu compliques de compliquer.
Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que le monde, ce soit moins la merde.
Ah oui, mais ça, c'est pas possible.
Que ce soit plus la merde.
L'autre, ça, c'est pas possible. Et ta baguette magique, elle sort d'où aussi?
Non, alors, sincèrement,
dans ma vie professionnelle.
Pas d'utopie en fait.
Concrètement. Je ferai en sorte que Kik Liard, l'harmoniciste avec qui je joue, soit énormément moins étourdi et se rappelle de tout ce qu'on lui dit et soit énormément de moins de mauvaise foi quand on lui fait un reproche et qu'il est infect.
Et d'ailleurs, on le salue.
Voilà.
D'ailleurs, on le salue. Voilà. Hein.
Non, c'est pour ça. Et dans ma vie personnelle, je ferai en sorte que ma fille. Ne se fasse pas gauler dans des interrogations et que j'ai les messages parce que maintenant il t'envoie les SMS, ne se fasse plus jamais gauler et soit mis en retenue parce qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle pour effectuer une interrogation.
Ah, les enfants ne savent plus tricher.
Ils trichent comme des nuls.
Alors je pense qu'elle utilise l'autotune.
Que ma fille triche mais qu'elle se fasse pas avoir.
Quel âge a la bichette?
17 ans.
Aïe, aïe, aïe.
À 17 ans, on s'est triché normalement. Là, il va falloir faire un effort.
Mais là, ça va être compliqué.
Écoute, ton
papa embrasserai fort aussi.
Apprends à tricher. Franchement, c'est important. Non, non, c'est important dans la vie.
Apprends à ne pas te faire
gauler.
Oui, pas te faire.
Moi, jamais.
Vous dites à peu près la même chose.
Fais en sorte que tes parents ne sachent jamais les conneries que t'as pu faire.
Ouais. C'est pour ça que je redis qu'on est sur une fin d'émission parce qu'on est déjà à 1h20.
Ouais. Mais c'était un plaisir en tout cas. Ouais. Merci.
Bah, en tout cas,
la fin va être facile à monter.
Là, donc du coup, comme je viens de le dire, on arrive sur une fin d'émission et merci à Johnny Montreuil d'avoir pris le temps de venir dans l'émission. Et puis j'espère que t'as passé un bon moment.
Au moins aussi bon que nous, on l'a ressenti.
Ouais,
c'est
en
chouette.
Tout cas, c'était cool.
C'est chouette, tu vois, de se capter après un concert et de se dire tiens, vas-y, on continue la discussion, mais on en fait profiter plus de gens.
Et en plus, c'est Couscous que t'as rencontré, donc.
En robe.
En robe. Ouais.
Oui, bah. What? J'étais pas au courant de ça.
Mais toi, t'es au courant de rien.
Couscous, c'est toujours en robe. Je vois ça, ouais. C'est normal, c'est la base.
Non, mais avec plaisir. Et merci beaucoup.
Mais pareil, et puis au plaisir de vous revoir sur scène.
Du coup, je te propose quand même
qu'on
se quitte sur une musique de ton troisième album.
Ouais.
C'est avec Rosemary Stanley, donc la chanteuse de Moriarty. Et franchement, celle-là, elle est. Enfin, j'adore. Elle est trop bien. Bon, j'ai pas d'autres mots. Mais en tout cas, merci beaucoup encore. Des bisous à tout le monde.
Bonne soirée sur la bulle mécanique. Bisous.
Oh yeah.
Ciao.
Emmène-moi en mer, emmène-moi sur l'eau. Je veux quitter la terre sur ton joli bateau. Tous les deux vers les îles, loin de mon cœur gelé. Vers une vie tranquille, emmène-moi ma beauté.
Où vas-tu petit frère, loin de tes caniveaux? Souvent c'est l'enfer de vivre sur les flots. Tous les deux vers les îles, tu ne sais même pas nager. Au pauvre rat des vies, et tu veux naviguer.
Emmène-moi dans le vent, renifler les maquereaux et les poissons d'argent, le soleil sur ta peau. Emmène-moi loin des villes, comme ces goélands. Pour toi je quitterai Belleville, j'oublierai Ménilmontant.
Ne fais donc pas l'enfant, retourne à tes moineaux. Ton Aristide bruant, tes pigeons, tes corbeaux. Tu n'es plus très crédible, je crois tu perds ton temps. Tu dis ça à toutes les filles, et je ne veux pas de monde.
Prends-moi au bout du monde, passager clandestin. Emmène-moi jolie blonde, je serai ton marin.
Va donc au bout du monde, voici c'est ton destin. Je ne serai pas ta blonde, je suis avec un marin.
Rassure-toi jolie fille, ni jaloux ni corneau. Laisse voguer notre idylle sur ton joli bateau.
Tous les deux vers les îles sur mon joli bateau. Réveille-toi imbécile et va prendre ton métro.
Nous trouverons asile sur tous les océans. Facile, mais nous prendrons le temps. Nous danserons dans les vagues, sous la lune tous les deux, et dans le chant des âmes. Je t'embrasserai si tu veux. Nous trouverons asile sur tous les océans. Pour toi je quitterai Belleville,
ah oui.
J'oublierai Ménilmontant.
Vraiment.
Nous danserons dans les vagues, sous la lune tous les deux, et dans le chant des âmes,
si tu veux.
Et dans le champ des algues,
tu oublieras ta banlieue.
Nous trouverons asile sur tous les océans. La vie sera facile quand nous prendrons le temps.